Vous êtes sur France Culture, les informations de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les syndicats réformistes ont obtenu des gages de la part du Sénat qui a modifié à la marge la réforme ferroviaire sur le volet social notamment. Le vote solennel est prévu aujourd'hui. PSA se prépare à quitter l'Iran. Le groupe automobile français veut ainsi échapper aux sanctions américaines après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Et pendant ce temps, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou poursuit sa tournée européenne contre Téhéran. Nous y reviendrons longuement. Et puis nous irons en Inde, où les déchets plastiques devraient doubler ces 4 prochaines années pour atteindre 12 millions de tonnes. Alarmant en cette journée mondiale de l'environnement. Envers et contre la grève, la réforme ferroviaire doit donc être votée cet après-midi au Sénat. Vote solennel d'un texte finalement assez fidèle à l'original adopté il y a quelques semaines à l'Assemblée. Avec toutefois une évolution, je vous le disais, une option que les cheminots pourront activer s'ils sont plutôt nostalgiques de la SNCF, Maxime Debs.
C'est la principale avancée, si ce n'est l'une des seules obtenues par les syndicats au sortir de l'examen du texte au Sénat, mais elle est importante sur le papier. Ce droit au retour pour les cheminots transférés chez un opérateur privé. S'ils ne sont pas heureux de leur nouveau poste, ils pourront revenir à la SNCF et ce, dans un délai de 8 ans après leur départ, les conditions du statut garanties. Seul préalable à ça, qu'un poste soit ouvert à ce moment-là pour permettre ce retour. Alors certes, oui, la CFDT voulait que les cheminots puissent revenir sans limite, ad vitam aeternam, mais la concession même timide est là de la part d'un gouvernement désireux de calmer les syndicats à la marge. Il y a donc cette avancée d'un côté et de l'autre aussi ce principe réaffirmé après ce même examen au Sénat. Les titres SNCF détenus par l'État seront incessibles. Ce sera marqué ainsi en ces termes dans la loi. C'est là aussi une réponse aux inquiétudes des syndicats, lesquels estimaient que le texte dans sa première mouture n'était pas assez clair et pouvait laisser présager un risque de privatisation.
Les premiers projets agricoles sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes vont pouvoir voir le jour, 15 au total, régularisés hier officiellement par l'État. Les baux couvrent environ 10% des terres et courent jusqu'à la fin de l'année pour le moment, ce que regrettent les signataires. Quelle intégration des étrangers en France ? Le gouvernement dévoile ses pistes ce matin. Le versant humaniste, en quelque sorte, d'une politique qui se veut intraitable contre l'immigration irrégulière. Les heures d'apprentissage du français devrait ainsi être doublé. 40 000 réfugiés sont arrivés en France l'année dernière pour s'y installer durablement. Total avait prévenu, c'est maintenant PSA qui plie. Le constructeur automobile français annonce son retrait prochainement d'Iran. Après la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et donc du retour des sanctions financières américaines, PSA renonce, Isabelle Chaillou.
Marché prometteur de 78 millions d'habitants, tête de pont vers le Moyen-Orient comme l'Afrique, encore plus que Renault, PSA avait misé sur l'Iran via des co-entreprises avec des partenaires industriels locaux. Mais aujourd'hui, l'aventure tourne court. PSA annonce en effet lancer un processus de suspension de ses activités dans le pays afin d'éviter d'être passible d'éventuelles sanctions américaines à partir du 6 août. Car le constructeur français, comme toutes les entreprises étrangères, peut faire l'objet de poursuites et de très lourdes amendes au nom de l'extraterritorialité de la justice américaine. Officiellement, PSA n'a pas renoncé à essayer de négocier une exemption avec les États-Unis, mais les chances sont minces. Le groupe automobile cherche surtout à rassurer les investisseurs sur sa solidité financière, car l'Iran est un de ses premiers marchés étrangers en nombre de voitures écoulées. Des modèles qui ne sont cela dit pas exportés, mais assemblés sur place par le partenaire local, Iran Kodro. PSA minimise donc l'impact financier de ce retrait. Ses activités en Iran représentent moins d'1% de son chiffre d'affaires mondial.
L'Iran qui voit donc déjà certaines entreprises fuir le pays, qui négocie toujours parallèlement avec les Européens, les Chinois, les Russes pour préserver l'accord sur le nucléaire. Mais cela semble de plus en plus difficile. L'ayatollah Khamenei mettait d'ailleurs hier les Européens en garde. Il menace d'accroître sa capacité d'enrichissement d'uranium. Face à cela, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est en pleine tournée européenne pour rallier Berlin, Londres et Paris à la cause des États-Unis contre donc Téhéran. Netanyahou le dira à Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Élysée, comme il l'a dit hier à Angela Merkel. Analyse sur ce point de David Kalfa, il est politologue, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.
On a déjà vu lors de cette rencontre, c'est notamment la convergence sur la question du rôle de l'Iran au Moyen-Orient, ça campe déjà le débat. On voit bien qu'il y a là, pour le coup, sur ce sujet plutôt, dirais-je, géostratégique, géopolitique, une convergence de vues avec le Premier ministre israélien. En revanche, sur la question de l'accord lui-même, sur la sortie du JCPOA et ses conséquences, les divergences se maintiennent, les positions se raidissent. On l'a vu très récemment avec les déclarations de Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, sur Israël qu'il faut éradiquer, et sur les préconditions qu'il pose au maintien de l'Iran dans l'accord. Et pour lui, il n'est pas question de mettre en cause le rôle régional de l'Iran au Moyen-Orient et de toucher à son programme balistique. Donc là, les Européens comme les Israéliens devront trouver un moyen terme pour arriver justement à faire en sorte que, à minima, une sortie de crise par le haut via un accord renforcé soit trouvée.
David Kalfa avec Margot Steve, invité hier du journal de 22h sur France Culture. Poussé à la démission à cause de sa réforme fiscale, le Premier ministre jordanien y a été contraint hier après plusieurs jours d'une contestation populaire inédite dans le royaume. Contestation contre un projet de réforme fiscale donc et la hausse des prix. Et ce alors que la Jordanie est sous la pression du Fonds monétaire international pour réduire ses déficits. Les élèves de Parkland en Floride relancent leur mobilisation 3 mois après la tuerie qui a fait 17 morts dans leur lycée. À la fin du mois de mars, ils avaient fait descendre des centaines de milliers de jeunes Américains dans la rue pour réclamer un meilleur contrôle des armes à feu dans le pays. Eh bien, ils viennent d'annoncer le départ d'un tour des États-Unis pendant lequel ils tenteront de maintenir ce débat sur la place publique. Les précisions depuis Washington de Gregory Phillips.
Dimanche dernier à Parkland, c'était la cérémonie de remise des diplômes avec évidemment beaucoup d'émotion au moment d'évoquer les élèves disparus et avec le discours introductif de Jimmy Fallon, la star de NBC, venu remercier les lycéens de Marjorie Stoneman Douglas pour leur courage et leur intégrité. Ces mêmes lycéens annoncent donc à partir du 15 juin prochain un tour des États-Unis qui va durer 2 mois. Il y aura 75 étapes à travers tout le pays, dit Cameron Caskey, l'un des survivants les plus actifs du mouvement March for Our Lives. Au total, dans une vingtaine d'États, Iowa, Texas, Californie, Connecticut. Et en Floride, on ira dans chaque district. Les survivants de Parkland veulent inciter les jeunes Américains à voter en novembre aux élections de mi-mandat contre les candidats soutenus par la NRA, le lobby des armes, qui donne une note à chaque élu. On peut marcher, on peut faire en sorte que nos politiciens rendent des comptes, mais à la fin, le vrai changement viendra du vote. Souvent, les gens ne votent pas, ils ne se renseignent pas, ils votent en fonction de la lettre que la NRA attribue aux candidats. On encourage tout le monde à bien se renseigner et à voter. Cameron Caskey, 17 ans, qui n'aura même pas l'âge d'aller voter en novembre, mais qui espère que les résultats de cette nouvelle mobilisation se verront dans les urnes.
Au moins 65 personnes ont été tuées ces derniers jours, des centaines d'autres blessées, tout cela par l'éruption du volcan guatémaltèque Fuego. C'est la plus violente éruption enregistrée depuis plus de 40 ans dans le pays d'Amérique centrale. Le monde qui se déchaîne et qui subit aussi les habitudes, les mauvaises habitudes de l'homme. Aujourd'hui, mardi 5 juin, nous sommes la journée mondiale de l'environnement avec un thème cette année, la pollution plastique et un pays d'accueil, l'Inde, un pays qui produit chaque année environ 6 millions de tonnes de déchets plastiques non recyclables. La faute à la forte croissance de la consommation dans une économie encore émergente. La faute aussi et surtout au commerce en ligne. C'est un reportage de Sébastien Farsi dans la capitale indienne.
Depuis environ un an, Isha, une femme de 29 ans de New Delhi, commande ses fruits et légumes sur un site internet spécialisé. Les produits sont ainsi livrés chez elle. C'est pratique et meilleur marché que dans les commerces de son quartier. Le problème, c'est que cela fait exploser sa consommation de déchets plastiques.
À chaque fois que je commande 20 produits, chaque fruit ou légume est emballé séparément dans un grand emballage plastique. Et même si vous ne prenez qu'un chou-fleur, il sera entouré d'un film plastique. Et je retire tout immédiatement, car si vous gardez les légumes dans le plastique, ils pourrissent rapidement. Je finis donc avec ces piles d'emballages plastiques à jeter. Il y en a vraiment trop. Peut-être que les gens pensent que leurs livraisons doivent être bien emballées. Et comme le plastique est la solution d'emballage la moins chère, c'est ce qui est utilisé.
Avec l'émergence du commerce en ligne, les emballages plastiques ont envahi les foyers des villes indiennes et sont devenus une nouvelle source de pollution dans un pays qui croule déjà sous ses déchets. La consommation de plastique devrait ainsi doubler dans les 4 prochaines années en Inde. Or, son recyclage est peu développé, ce qui fait que 600 000 tonnes de déchets plastiques finissent dans l'océan Indien chaque année.
Un temps encore très orageux ce mardi en France. 15 départements sont en vigilance ce matin, vigilance aux orages, de la Dordogne jusqu'à la Haute-Vienne. Le département de l'Eure, par ailleurs, est en vigilance pluie et inondation. Ce matin, seul l'est de la France sera au sec, avant donc l'arrivée des orages. Il fait 14 degrés déjà à Cherbourg, 18 à Lille, Bordeaux, Périgueux, 21 à Paris, 23 à Marseille. La maximale ce matin, 25 à Strasbourg.